Bienvenue dans 100 ans de cinéma et des poussières sur Prune. Tout de suite, retrouvez Alexis et son invité pour une heure de discussion autour d'une thématique de cinéma.
Et oui, bienvenue dans 100 ans de cinéma et des poussières pour son émission donc du mois de mars. Une émission qui est consacrée, comme son nom l'indique, au cinéma et à l'histoire du cinéma également, comme son nom l'indique. Tous les cinémas très différents. Le principe de l'émission est très simple. On reçoit un ou une invitée par mois qui choisit une thématique de cinéma, que ce soit un réalisateur, une réalisatrice, un genre ciné, une époque, etc. Et donc aujourd'hui, nous avons le très grand plaisir de recevoir Fabien Wellman, bonjour.
Bonjour.
Fabien Wellman qui a choisi de nous parler donc de John Carpenter, réalisateur américain, et de sa filmographie, de ses films et aussi finalement de ton rapport avec le cinéma de John Carpenter. Alors pour ceux qui ne t'auraient pas reconnu, ceux qui ne te connaissent pas peut-être, Fabien Wellman, tu es essentiellement connu pour être un scénariste de bande dessinée, si je ne dis pas de bêtises.
C'est très exactement ce que je suis. même si j'ai fait quelques passages rapides dans l'animation et le cinéma, mais en réalité, là où je travaille le plus, c'est pour la bande dessinée. Et ce pourquoi je suis le plus connu, ou en tout cas, mon boulot est le plus connu, parce que mon nom ne l'est pas, c'est pour la série Seul, une série pour enfants, qui met en scène 5 enfants dans une ville dont tous les adultes ont disparu.
Voilà, et puis tu es également le scénariste d'autres séries en cours ou terminées. Moi, je pense à Green Manor qui t'avait fait pas mal connaître à l'époque.
Qui était mon tout premier boulot, effectivement, en 2002, dans les pages de Spirou, avec le très très brillant Denis Baudard au dessin. J'ai aussi travaillé avec Mathieu Bonhomme pour Le Marquis d'Anaon. J'ai travaillé sur la reprise de Spirou et Fantasio avec Johan, un autre Nantais. En parlant de Nantais, avec toute une équipe pour le dernier Atlas, mon dernier boulot en date, qui est une trilogie de 3 fois 200 pages, donc un très gros boulot. Une uchronie qui met en scène des robots géants fonctionnant au nucléaire qui auraient été fabriqués entre autres à Saint-Nazaire. Donc c'est très joyeux de faire ça en ce moment.
Oui.
Et en parlant de la région, qui se fait avec plein d'autres Nantais et quasi-Nantaises. Je pense à Laurence Croix pour la couleur, Fred Blanchard pour le design, Hervé Tancrel pour le dessin et Gwen de Bonneval au co-scénario. Qu'est-ce que je pourrais citer d'autre? Une incursion aussi du côté de, si ce n'est la littérature érotique, en tout cas la thématique de la sexualité avec L'herbier sauvage, des entretiens que je fais avec des interlocuteurs et interlocutrices autour de la sexualité. J'en passe et des meilleurs. Il y a un peu de tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, à mes yeux, c'est que tous les genres m'intéressent. Que ce soit le polar, comme avec Green Manor, mais comme aussi la romance avec Paco les mains rouges, qui est réédité en ce moment sur une histoire d'amour entre deux bagnards dans les années 30, dessinée par Eric Sago, un autre Nantais. Mais aussi la science-fiction, mais aussi l'horreur, et Seul en particulier, à certains égards, est un peu de l'horreur pour enfants.
Ouais. Et puis il y avait également alors, une série qui est terminée maintenant, qui était avec Samedi et Dimanche, moi j'aimais beaucoup.
Ah oui, tout à fait, avec Gwen de Bonneval aussi au dessin, qui était plus, disons, tout public, mais à visée philosophique pour les enfants, entre autres. Et je suis content que tu cites cet album, enfin cette intégrale aussi, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé écrire.
Oh bah, c'était vraiment très agréable à lire. Et puis, il y a des liens avec le cinéma. Alors, je sais que tu n'as pas forcément participé aux adaptations qui ont été faites de Seul, par exemple, ou plus récemment de Spirou. Mais voilà, il y a quand même, entre la BD et le cinéma en France, il y a aussi pas mal de liens, mine de rien.
Oui, il y en a parce que le cinéma, ça coûte très cher à faire et donc ils ont toujours un œil sur ce qui a fonctionné en bande dessinée où finalement on a plus de facilité à tenter des choses un petit peu audacieuses parce que ça coûte moins cher de lancer une bande dessinée. Il y a toujours un risque, hein, bien sûr, ça coûte quand même de l'argent. Mais on va dire que payer des auteurs, quand ils sont bien payés, c'est dans les 20-25 000 euros pour un album, ce qui n'est pas une énorme somme, malheureusement. alors qu'au cinéma, on parle tout de suite de millions.
Ouais.
Donc je pense que de ce côté-là, les producteurs ont toujours un peu une curiosité de savoir qu'est-ce qui a pu être tenté de manière un peu étonnante et qui pourrait être adapté. Je pense que dans ce cadre-là, Seul est parlant parce que c'est une série pour enfants, mais où il est énormément question de la mort. Mmh. Et je pense que produire ça pour l'audiovisuel de prime abord était très compliqué, en tout cas à une époque, ce qui a changé avec des choses comme Stranger Things, par exemple, grâce aux plateformes qui permettent à un moment donné de montrer qu'on peut faire quelque chose de très ambigu, de très complexe, où il est question d'enfants, mais quand même avec des thématiques qui sont très, très graves. Ce qui a un peu changé la donne. Et d'ailleurs, ça se sent autour de Seul, où à nouveau, des idées d'adaptation sous forme de série reviennent un peu régulièrement. Bon, maintenant que ça a été adapté au cinéma, plutôt de belle manière d'ailleurs par David Moreau. Donc de toute manière, maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'il en sera s'il y a une adaptation. Ça serait forcément avec Studio Canal qui en détient les droits. Mais en tout cas, c'est dans les tuyaux parce que les plateformes sont en train de rebattre les cartes de ça. Mais la bande dessinée, pour en revenir à ça, me donne une liberté actuellement de ton qui est quand même très difficile à trouver dans l'audiovisuel.
Et pour terminer avec l'audiovisuel, tu as quand même écrit le scénario d'un film de cinéma.
Oui, tout à fait.
Qui s'appelait
Un monde à nous, ouais. qui était une expérience compliquée pour moi parce que j'étais co-scénariste avec le réalisateur Frédéric Balegian. Ça, c'était passionnant. Simplement, c'était compliqué pour moi de tenir quelque chose de bout en bout alors que je ne connaissais pas les coulisses du cinéma. Et d'ailleurs, j'en profite pour évoquer ici le fait que j'ai un véritable amour très sincère pour le cinéma, mais qui n'est pas un amour d'exégète qui connaîtrait toutes les dates des films, exactement quels étaient les acteurs... la manière dont ont été produits les films, etc. Moi, mon approche du cinéma, et ça va, je pense, se ressentir dans l'heure qu'on va passer ensemble, c'est une approche que je qualifierais de très organique. C'est-à-dire que je me suis nourri du cinéma comme un amateur amoureux. Mais ces films, et y compris l'œuvre de Carpenter, sont venus intégrer une espèce de compost, un peu comme ça organique, un peu un magma, qui ont ensuite nourri mes œuvres, mais je serais bien en peine de pouvoir parfois citer la date précise de sortie d'un film qui m'a pourtant marqué à vie. Donc une fois qu'on pose ça à plat, mon approche d'un cinéma comme celui de Carpenter, c'est vraiment une approche enthousiaste, et c'est celle-là que j'ai envie de partager, et pas du tout une approche encyclopédique.
Alors moi, je m'occuperai de la partie encyclopédique.
Je te remercie.
Et enthousiaste aussi, hein, je te rassure.
L'un n'empêche pas l'autre, ouais. Je suis d'accord.
Et pour en terminer avec l'audiovisuel, je tiens à te remercier aussi d'avoir participé à la série « Avez-vous déjà vu ?»
Ah mais oui.
Avec et pour Alain Chabat, qui pour les gens qui ont mon âge, c'est quand même un moment assez marquant.
Et il semblerait que ça marche encore, parce qu'il y a des gens qui m'en parlent. J'ai déjà eu l'immense chance d'être auto-cité devant moi. Pour quelqu'un qui disait « Ah oui, ça me fait penser à un meurtre pas parfait du tout », qui était par exemple un des sketchs, l'avez-vous déjà vu, un de ceux auxquels j'ai participé. On était trois à commettre ces petites pastilles d'animation. Au départ, c'est un projet de piano, l'animateur piano qui travaille toujours avec Alain Chabat.
Oui, au Burger Quiz.
Exactement, qui fait les animations du Burger Quiz. Ouais. Il y avait Garc aussi. Et puis j'étais le troisième larron pour des séances d'écriture de ces sketchs qu'on peut toujours trouver sur Internet en tapant « Avez-vous déjà vu ?». Il y a quelques chefs-d'œuvre inusables. Je pense à Nuf, Nuf Nuf à l'école des charcutiers qui m'a rendu célèbre car je fais la voix de Nuf Nuf. Eh, vous savez comment je le sais? Parce que je suis un cochon.
Il faudra revenir pour faire des jingles, à mon avis.
Je les ferai exprès pour Prune. Qui effectivement n'a pas eu trop de succès à sa sortie sur M6, mais qui par contre a eu un vrai succès d'estime sur YouTube ensuite, et qui fait qu'il y a plein de gamins qui n'en avaient rien à fiche quand je faisais des interventions en primaire ou au collège de mes BD, mais qui par contre connaissaient très très bien la Fée Fago ou Nuf Nuf ou le Pipo adopté par des violons, enfin autant de chefs-d'œuvre que je pense la postérité retiendra.
Eh ben. et à raison. Partons maintenant, bien sûr, sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir celui que tu as choisi, le cinéma de John Carpenter. Mmh. Alors, peut-être déjà, tu peux nous présenter quel est le point de départ de cette appréciation de son œuvre.
Alors, oui, je vais faire ça de manière très spontanée, parce que ouais. C'est la première fois que je parle vraiment de lui comme d'un sujet à part entière, et pourtant, ça fait partie de ces personnes qui ont, dont je me rends compte, a posteriori, qu'elles ont complètement orienté mon goût pour la créativité, pour le genre, pour le cinéma, mais aussi pour l'écriture en général. Quand tu m'as proposé de préparer un peu l'émission, je me suis rendu compte que ça faisait partie des rares réalisateurs dont je connais quasiment toute la filmographie, mais sans avoir essayé de le faire. C'est-à-dire que je n'ai pas tenu à me dire « je dois voir tout Carpenter », mais j'ai dû voir quand même 90% de ses films, parce qu'en plus, il en a fait beaucoup. Mais cela dit, il y en a qui ont été plus prolixes que lui. Par contre, c'est pas comme si j'avais eu une épiphanie un jour en me disant « ça y est, Carpenter est mon maître », mais j'ai été imprégné de son œuvre, en fait, comme je pense j'ai été imprégné de l'œuvre d'un Stephen King dans un genre littéraire, comme j'ai été imprégné d'un Cronenberg dans le cinéma, peut-être aussi d'un Clive Barker. C'est-à-dire que c'est toute une galaxie. Bon, je réalise qu'elle est très masculine, mais parce que peut-être le genre, à une époque, était un genre très masculin avant que, par exemple, Bigelow entre en scène. Ça fait partie, beaucoup des réalisatrices que je trouve hyper intéressantes aussi.
À noter que Carpenter, c'est aussi beaucoup entouré de femmes au niveau de la création, pour en revenir là-dessus. Hein.
J'ai cru comprendre. Alors ouais. Ça, justement, par exemple, j'en sais assez peu de choses, mais j'ai l'impression qu'à sa manière, il avait une façon de détourner certains codes virilistes qui me l'a rendu aussi sympathique, parce que je crois pouvoir dire que j'avais déjà une aspiration à une forme de féminisme, ou en tout cas de pro-féminisme, pour dire que j'étais déjà intéressé par le fait que des films ne soient pas que des films de bourrins, même si Carpenter joue de ça. On pourra peut-être citer certains extraits, certains passages de ces films qui sont quand même éminemment bourrins.
Ah oui.
C'est quand même des films d'hommes, mais ce n'est pas les plus caricaturaux des films d'hommes. Et surtout, il y a quand même moi, ce que j'aime appeler une petite musique dans son œuvre. Alors, il s'avère qu'il y a littéralement une petite musique, parce que c'est lui qui faisait la plupart du temps la musique de ses films. Mais ce que j'appelle musique, c'est pour éviter le terme style, dont je me méfie un peu, mais il y a une patte de Carpenter qui m'a tout de suite frappé. Alors, te dire par quel premier film ça s'est passé, je pense qu'il y en a deux qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Bon, allez, quatre. Quatre qui, à mon avis, m'ont marqué à vie. Je ne sais pas dans quel ordre je les ai vus, parce que j'ai aucune mémoire, mais je sais qu'il y a eu The Thing, mm-hmm. qui a été sans doute un des plus importants. Il y a eu Christine, l'adaptation du roman de Stephen King. Je pense qu'il y a eu aussi... Ah non, je viens de m'en rappeler d'un autre, c'était Los Angeles 1997. New York 1997.
Ouais.
Dont une grande affiche ornait les murs de notre appartement quand j'étais petit, parce qu'en fait, on avait un appartement ou un immeuble. On était au sixième, j'adorais cette idée de dominer comme ça la cité autour. Mm-hmm. Et mes parents étaient plutôt fans de cinéma et avaient, dans le couloir central de l'appartement, tapissé les murs d'affiches de cinéma.
Super affiche, celle
de... Et celle-là était incroyable. Il y avait aussi 2001, l'Odyssée de l'espace. Il y avait aussi moi, Christiane F., droguée, prostituée. Donc, il y avait des choses assez étonnantes. Et je crois que Snake Plissken, en tant qu'enfant, en tout cas, était une espèce de modèle de héros hallucinant. D'ailleurs, j'ai cru comprendre par la suite qu'il avait inspiré énormément de créateurs de jeux vidéo, et que toute cette esthétique, au demeurant à la limite du kitsch, hein, mais maintenant, mais a complètement imprégné plein de personnes, ce héros borgne, presque un pirate, un mercenaire.
Oui, ouais. Mais qui lui-même aussi s'inspire de pas mal de personnages de western ou,
exactement,
ou de SF comme Cobra. Ou, ouais.
Exactement, et je pense d'ailleurs que le western faisait partie des, si j'ai bien compris, hein, des choses que Carpenter revendiquait, et qu'il n'a jamais vraiment fait de western, pas à ma connaissance, mais il s'est inspiré de l'esthétique western assez énormément.
C'est carrément une obsession hein, pour lui, je pense.
Moi, j'en ai l'impression, et ce qui m'avait fait dire ça, c'était un autre film auquel je pense, qui m'ont marqué durablement, c'était Assaut. Mm. Alors, dont le nom anglais est un peu plus, américain est un peu plus long, Assault on
Precinct 13.
Precinct 13, voilà.
Assaut sur le Central 13.
Voilà, qui, en fait, est un western urbain, qui alors là, est peut-être un de mes préférés, étonnamment, parce que pas le plus connu, d'ailleurs, dont un remake a été fait, puisqu'on voulait évoquer les remakes qui ont été faits
rapidement
de Carpenter. Mm. Et je pense qu'il y a un autre film qui va me revenir... qui me reviendra en cours de route, mais dans ceux qui... Bon, il y a eu Fog aussi, mais, et Halloween, voilà, effectivement. Halloween, qui, par exemple, a été... moi, sur lequel je me suis plus penché par la suite parce que j'ai voulu écrire un slasher.
Oui.
À un moment donné, pour l'instant, c'est dans les cartons.
En BD ?
En BD.
Oui.
Et pourquoi pas en film, mais pour l'instant, ça n'a pas pris. Et il se trouve que Halloween, à certains égards, a été un peu le tout début de ce qu'on a appelé les slashers, en tout cas, un des films clés de ce genre. Avec un personnage de femme extrêmement fort. Et dans ce sens-là, c'est peut-être un film un peu à part, d'ailleurs, dans la filmographie de Carpenter, même s'il y a des personnages d'héroïne. Mais là, elle est vraiment centrale. Et d'ailleurs, ça a presque créé un archétype qui est celui de la final girl qu'on évoque dans le slasher, à savoir, le slasher, c'est souvent un tueur masqué qui tue tout le monde dès que les gens niquent. En gros, il y a quand même toute une thématique sexuelle autour de ça.
Ça a été, oui, ça avait été parodié dans Scream.
Exactement. Et il y a une final girl qui s'en sort. Et donc, en fait, il est énormément question de la thématique du genre dans le slasher et de manière très organique. C'est ça qui m'avait intéressé, c'est que c'était... le problème, c'est que moi, je ne peux pas m'empêcher d'y mettre du conceptuel derrière. Donc, je pense que mon approche du slasher était trop conceptuelle. Mais je me suis passionné pendant un temps pour ce genre-là, qui est un genre organique, qui est un genre qui parle du corps éventuellement éviscéré, coupé en trois. Bon, le gore est comme ça. Hein. Moi, j'étais un passionné de gore à cette époque. Mais avec l'idée qu'à un moment donné, la jeune femme peut s'en sortir et peut dépasser cet agresseur qui, fondamentalement, est impuissant, mais qui rattrape cette impuissance en tuant des gens à coups de couteau. En gros, c'est pour le dire très très vite, hein, les grandes thématiques freudiennes, elles sont là, elles m'ont passionné. Et tout ça, je l'ai vu donc pendant une dizaine d'années, les années 80, j'imagine, hein, tout ça s'est enchaîné. La plupart du temps en VHS, en vidéo, j'allais au Vidéoclub. Je pense que c'est assez tardif le moment où je suis allé voir des films de Carpenter au cinéma. Et d'ailleurs, le seul souvenir que j'ai marquant, hélas pas dans le bon sens, d'un film de Carpenter vu au cinéma, c'était un de ses derniers,
ouais.
Qui devait être Ghost of Mars.
Oui, son avant-dernier.
Avant-dernier, et qui malheureusement m'avait énormément déçu. Et donc, j'en étais ressorti en me disant, peut-être qu'il est temps pour le grand John d'arrêter, parce que là, j'avais l'impression qu'il s'auto-parodiait, mais peut-être pourras-tu sauver le film.
Ah oui, alors moi, j'ai du bon à dire sur Ghost of Mars, qui est une série B à assumer. Mais alors, pour revenir à une thématique qu'on a abordée très rapidement, c'est le féminisme ou pro-féminisme, puisque dans Ghost of Mars, on est dans une société matriarcale. Toutes les personnes qui dirigent sont des femmes.
C'est vrai.
Et la personne, l'héroïne, c'est donc une héroïne qui est une femme forte et très belle, et qui, je crois d'ailleurs, en plus... à une relation de l'ordre du sexe avec un personnage masculin. Et c'est pas pour autant qu'elle sera sacrifiée comme justement dans Halloween, par
oui,
exemple.
Oui, tout à fait.
Et donc, et c'est purement un western, en plus.
C'est ça, c'est vraiment un western. Ça, ça ouais. On le ressent complètement. Un western sur Mars, en fait.
Voilà, et en plus, il y a Jason Statham. Donc, que demande le peuple? Et hélas, moi, j'ai un petit peu la même... le même historique. C'est-à-dire que Carpenter, je l'ai découvert donc, à l'adolescence et il a arrêté de faire des film assez rapidement, c'est-à-dire Ghost of Mars c'est 2001, il en fera un autre 2010, on reparlera de ça peut-être, mais et du coup je les ai tous loupés au cinéma quoi, lors de leur sortie, parce que j'étais trop jeune, j'étais pas initié, etc. Et donc depuis, Carpenter c'est comme une histoire que j'ai ratée, que je ne peux redécouvrir que par les VHS ou le DVD.
Mais je réalise soudain qu'en fait j'en ai vu un, et que justement il m'avait marqué, c'était le fameux New York 1997. Et du coup, j'ai dû aller voir, ça y est, du coup, je tire le fil. J'étais allé voir la suite, dont le nom m'est revenu tout à l'heure. Mais
Los Angeles 2013.
Los Angeles 2013, qui n'est pas aussi bon, mais je l'ai vu au cinéma. Je pense quand même qu'il y a dû avoir un autre film de cette époque que j'ai vu par la suite au cinéma. Donc, il y en a eu quelques-uns. Par contre, c'est vrai que celui de Snake Plissken m'avait marqué, parce que au point que je m'en rappelle soudain, mes héros de bande dessinée commençaient à tous être des Snake Plissken, et que j'étais trop content d'arriver en cours, ça devait être vraiment en primaire, en montrant mes très beaux dessins de cette espèce de brute épaisse avec un bandeau de pirate. Et donc, c'était déjà dans ma formation de jeune esprit juvénile, cette espèce de super-héros, alors qui est très viril, mais je trouve qu'il a une part de féminité qui est liée au comédien.
Oui. Kurt Russell.
C'est Kurt Russell qui a quelque chose de l'ordre d'une féminité dans le regard, étonnamment, alors que par contre il incarne plutôt des mecs badass. Mais c'est là que j'aurais vu une forme de léger trouble dans le genre, même si je reconnais quand même que ça reste des films extrêmement virils.
À noter quand même que son personnage de Snake Plissken donc, est effectivement assez fort, assez viril, c'est le cas de le dire, mais il est toujours en difficulté.
Oui.
En permanence, il est mis en difficulté et il doit être aidé par des personnes qu'il va rencontrer comme ça, qui sont tous en plus des personnes à la marge, des hommes et des femmes, dans le premier et dans le deuxième opus. Et finalement, voilà, il est... Et puis surtout, il s'oppose, et donc son personnage devient aussi intéressant comme un portrait en creux, finalement. Il faut voir qui est en face de lui, quoi. C'est une société néo-nazie, carrément fasciste en tout cas, qui le manipule dans le premier et encore plus dans le deuxième. Oui. Pour arriver à ses propres fins. Quoi.
C'est sans doute, de ce que j'ai cru comprendre du personnage de Carpenter, c'est sans doute un des personnages qui lui ressemble le plus, c'est un peu son Madame Bovary à lui, dans son nihilisme aussi. D'ailleurs, si je devais faire un parallèle audacieux, parce que je ne suis pas certain que c'est ça qui m'avait inspiré très exactement la fin d'une de mes BD qui s'appelle « Des lendemains sans nuages », mais il y a donc qui est une sorte de recueil d'histoires de science-fiction que j'avais... écrite vers 2002, je crois, avec Ralph Meyer et Bruno Gazzotti au dessin. Donc, ces deux dessinateurs m'avaient contacté. J'étais à l'époque à mes débuts dans Spirou. Ils avaient repéré mon travail sur Green Manor. Ils m'avaient contacté pour faire des nouvelles de science-fiction ensemble. Donc, je m'étais régalé à faire ça avec eux. Et au moment de penser à une sortie en album, on s'était dit, bon, bah, ça serait quoi le fil rouge entre ces nouvelles? Et on avait inventé un truc un petit peu bateau, mais sur lequel j'avais voulu m'amuser, du personnage qui vient du futur, qui sait que futur tyran a voulu commencer en étant romancier, et c'est parce qu'il n'a pas réussi à être romancier qu'il est devenu un tyran, un peu comme Adolf Hitler avec la peinture,
oui.
Et qui se met en tête de l'aider à percer dans la littérature. Et en fait, la fin est assez nihiliste parce qu'il se rend compte qu'il n'y arrivera jamais, que le type, de toute façon, ira vers le pire, sera un tyran. Et il y a un peu quelque chose comme ça dans la suite de New York 1997, où sans trop dévoiler la fin, on va dire qu'en tout cas,
on peut y aller, hein.
Carpenter, il va dans l'idée de à quoi bon essayer de sauver ces connards, quoi. Enfin, c'est un petit peu ça, et mm-hmm. laissons-les se débrouiller. Qui est peut-être d'ailleurs le seul moment qui m'a marqué du film, de la suite, là où pour moi, il y avait quelque chose. Et je te rejoins sur l'idée, je pense, qui est très importante à mes yeux d'enfant.
Mmh.
Une espèce de loser magnifique qui peut y avoir dans Snake Plissken, c'est-à-dire qu'il se fait manipuler, il se débat, il est souvent au sol, il en prend plein la gueule, il y a quelque chose vraiment de l'ordre du type qui morfle.
Doloriste, oui.
Un peu hard-boiled aussi, mmh. C'est un peu ce côté du polar noir qu'avait par exemple aussi le personnage de Harrison Ford dans Blade Runner. Hein. On retrouve un petit peu ce côté loser magnifique de cette époque, des films de science-fiction de cette époque. Bon, Blade Runner avec des moyens amplement plus importants. Et puis cette idée quand même géniale de série B, je suis d'accord pour dire que c'est pour moi un génie de la série B en fait, Carpenter, ah oui. De Manhattan transformé en prison, c'est forcément ça marque un enfant, enfin, moi je me suis dit c'est ce genre de SF, oui j'ai envie d'en écrire quoi, c'est trop génial.
Puis c'était dans l'air du temps, hein. C'était 2-3 ans après les Warriors de Walter Hill, qui était aussi voilà, ce western urbain, puis même carrément, enfin, ça faisait même référence à l'Antiquité, hein, mais
oui, avec un côté gladiateur, avec. Ouais. Et tu parlais de western urbain, j'en reviens à Saw. Saw était aussi pour moi, c'est une œuvre séminale parce qu'elle est complètement folle. Je crois vraiment que ça vaudrait la peine de la revoir maintenant parce qu'elle a cette espèce d'âpreté du cinéma des années 70, presque une sorte de néo-réalisme comme ça qu'ont eu à un moment donné des réalisateurs, beaucoup des hommes. Là encore, c'est un peu dommage, mais c'était beaucoup des hommes de ce qu'on appelait le nouvel Hollywood, un petit peu. Mm-hmm. En tout cas, moi, je l'associe à cette période. Je me méfie un peu des associations, mais il y a quelque chose de l'ordre il y a une épure dans Assaut. C'est un film où il se passe très peu de choses, que je trouve assez génial, et peut-être sur lequel tu veux qu'on revienne.
Non, je propose juste puisqu'on parle d'Assaut, on écoute le thème musical d'Assaut, qui est donc composé par Carpenter, qui a une formation de musicien et qui a composé pas toutes les musiques de ses films, mais la plupart. Et il a su aussi parfois déléguer ou s'entourer d'autres personnes, et on en reparlera. Mais la filmographie de Carpenter, même s'il a fait d'autres choses avant, commence véritablement, explose en fait avec Assaut en 76, et notamment avec ce thème qui pose le ton, quoi. À tout de suite.
Le cinéma contre-attaque dans 100 ans de cinéma et des poussières.
Effectivement, de retour dans 100 ans de cinéma et des poussières avec notre invité Fabien Velman pour parler de l'émission du réalisateur John Carpenter et de son cinéma. Et justement, là, on allait évoquer Assaut sur le Central 13, donc le film qui l'a véritablement fait connaître en 1976 et dont il composait la musique, dont on vient d'écouter le thème principal.
Il y a tout Carpenter dans cette musique, hein, parce que c'est hyper basique, il y a genre 4 notes.
C'est une épure, oui.
C'est hyper épuré, on peut dire que c'est un peu vieilli, et en même temps, ça joue son rôle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est presque une espèce de présence constante de Carpenter dans ses films. Il y a toujours un peu ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'en ai retenu de la plupart de ses films. C'est ces quelques notes qui accompagnent. Celle de Halloween est aussi assez marquante. Il y a presque un peu comme une musique de Les Dents de la Mer pouvait être marquante.
Oui.
Même si elles ont été moins reprises par la suite. Et Assaut avait cette force. Là, ça m'a fait vraiment un effet de Madeleine de Proust. D'allier plein de genres différents sans le dire. C'est-à-dire que... Donc, pour résumer très vite, l'intrigue, c'est l'équivalent d'un commissariat de quartier, quoi, qui est pris d'assaut, finalement comme Fort Alamo, au milieu de la nuit, par des types, des rôdeurs qui sont là. On sent qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un climat de quasi-guerre civile ou d'insurrection urbaine.
Mais ça ressemble encore aux Warriors qui sera fait un peu après. Hein.
Ouais, exactement. Ouais. Et ce flou autour de ces assaillants et de leur motivation... En tout cas, dans mon esprit, hein, je sais pas si c'est plus explicite dans le film, mais ce que j'en ai retenu, c'est que ça reste assez flou.
Ouais.
Participe de l'épure du film. En fait, il y a quelque chose de très... C'est un geste très épuré pour un film de genre. Le film de genre, soyons clairs, moi, je l'adore, mais souvent, c'est des films qui sont assez laids, qui sont très baroques, qui partent dans tous les sens. Ça peut être jouissif, hein. Le cinéma d'un Peter Jackson du début, c'était complètement délirant, ça partait dans tous les sens. Il y a un prêtre qui va faire du kung-fu avec une tondeuse. Bon, pourquoi pas ? Assaut, c'est l'antithèse de ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment une poignée de personnages dans un commissariat assailli, un commissariat qui sait qu'il n'y aura pas d'aide extérieure et ils doivent tenir. Et ils sont attaqués par ces silhouettes, parce que finalement, on les voit très peu, ces assaillants. Et on est entre le polar urbain, le western, mais aussi le film de zombies.
Oui.
Parce que ces assaillants, ça pourrait presque être des zombies. On sent ils sont un peu plus organisés, ils ne se relèvent pas quand ils sont tués, mais il y a ce côté déjà un peu fantastique en fait, qui est présent.
C'est comme s'ils n'avaient pas véritablement une conscience, comme ils avaient plus un esprit de ruche. Ils sont juste là pour agresser les gens, quasiment les bouffer, effectivement. Et ça arrive après les premiers films de Romero. Hein, et il y a probablement un lien à faire. Ouais.
Bah, en tout cas, moi, j'y vois quelque chose. J'ai adoré les Romero du début, hein, soyons clairs. La Nuit des Morts Vivants ou Zombies, c'était des films hyper importants pour moi. Et ça participe aussi de ce que j'appellerais un fantastique urbain. Que j'ai adoré aussi en bande dessinée, même si c'est pas si fréquent, mais alors je vais faire un parallèle qui est complètement audacieux. J'avais adoré la série Isabelle, qui était dessinée par Will et scénarisée par Franquin, par Delporte et par Machereau, avec une petite fille qui vivait des aventures dans une ville normale, ça se trouve c'était Bruxelles, mais d'un coup il y avait du fantastique qui apparaissait, il y avait du brouillard, il y avait des statues qui se mettaient à bouger, des choses comme ça. On est assez loin de l'imaginaire de Carpenter, mais pas dans mon esprit.
Mmh.
Dans mon esprit, Assaut, c'était du fantastique urbain. Il y avait Wolfen, qui était aussi un film de cette époque, je crois, où des loups envahissaient une ville, qui était un film incroyable, qui moi m'avait énormément marqué. Et je dirais que pour moi, c'était une des portes d'entrée dans ce fantastique de Carpenter, qui est un fantastique qui est pas tape à l'œil, en fait, que je trouve finalement à sa manière, en tout cas, assez élégant. Et quand effets spéciaux il y a, parce qu'il y a des films, on va en parler, où il y a un peu plus d'effets spéciaux, ce sont des effets spéciaux animatroniques, ou en tout cas faits sur le tournage même, et au risque de passer pour un vieux con, ce que je vais forcément faire à l'instant, je reconnais avoir une forme d'admiration pour ces animatroniques et leur charme, que parfois les effets spéciaux numériques ne permettent pas d'atteindre. Alors je ne dis pas que les effets spéciaux numériques sont à jeter dans l'ensemble, hein. Loin de là, ça permet des choses magnifiques. J'ai hâte de voir ce que peut faire un De Villeneuve, par exemple, quand il fait une suite de Blade Runner, que j'ai beaucoup aimé, quand il va faire un Dune. Donc tout ça, bien entendu, c'est bourré d'effets numériques. Je me méfie juste du numérique plaqué sur un film en disant « Bon, on sait le faire, donc on va le montrer ». Comme c'était très très difficile de montrer des choses étonnantes dans des films à l'époque des années 70, c'était fait avec parcimonie. Mmh. Donc on cachait les choses, et je pense à The Thing pour ça, qui à la fois montre énormément, mais parfois cache aussi. Mais là, il fallait le génie d'un, je crois que c'est Rob Bottin qui faisait les effets spéciaux de The Thing, qui pour moi sont insurpassables. Parce que justement, on sent que quelque chose est là, de l'ordre d'une étrangeté des effets spéciaux, un génie aussi. Hein. Je pense que Robotine était un génie des effets spéciaux.
Ah oui, oui, clairement.
Qui a été magnifié par le reste de l'épure de Carpenter qui ne montrait presque rien dans le cas de The Thing, à part du blizzard qui souffle sur des étendues glacées et quelques personnages, à nouveau d'ailleurs des personnages enfermés.
Oui.
Dans une toute petite casemate. Enfin, c'est à peu près ça. Dans un certain nombre des films de Carpenter, il est question d'un groupe qui doit survivre dans un tout petit espace.
Oui. Et d'ailleurs, il y a souvent une filiation qui a été proposée. Certains disent même carrément que Asso est un remake de Rio Bravo. Alors, je vois pas trop pourquoi. Plutôt du côté d'Alamo. Hein, mais par contre, il y a une fascination de Carpenter pour le western, ça on l'a dit, mais aussi et surtout pour le cinéma de Howard Hawks. C'est lui qui avait réalisé... Alors, Howard Hawks, réalisateur touche à tout, hein, qui a fait du western, mais qui a fait plein d'autres choses, et c'est lui qui avait qui avait co-réalisé le premier The Thing dans les années 50, la chose
exact.
Venue d'un autre monde. Et en fait, Carpenter le dit, l'assume complètement, Howard Hawks est son réalisateur préféré, il aime la manière dont il filme, et en fait, il s'inspire énormément de ses films, peut-être pas dans le cas d'Asso, au niveau du scénario de Rio Bravo, mais au niveau vraiment de la mise en scène.
Et alors ça fait tilter un de mes circuits neuronaux. Ça me fait penser à quelque chose qui est hyper important. Des conseils que je donne à des jeunes scénaristes quand j'en croise ou que je donne des cours ou des masterclass, je leur dis souvent que la clé de la créativité, d'une bonne créativité, c'est de ne pas se contenter de regarder ce qu'on aime regarder. C'est-à-dire que si on aime les westerns et qu'on regarde que des westerns, on risque pas de renouveler le western. Ben, voilà un exemple type de quelqu'un qui vient d'abord du western, dont peut-être le fantasme ultime aurait été de faire un western, mais qui finalement a eu une pertinence plus grande en allant utiliser certains des outils du western dans un genre qu'il n'attendait pas, à savoir le fantastique. Cette hybridation des genres, pour moi, elle est capitale. Et donc, un des grands conseils que je peux donner à des jeunes scénaristes, c'est ça, c'est de dire, si par exemple vous adorez la science-fiction, super, mais allez vous gaver de western, allez vous gaver de films de samouraï. D'ailleurs, George Lucas en est un autre exemple, hein, il a clairement été cherché du côté du western du samouraï pour faire du space opéra.
En fait, il a même très peu été cherché du côté de la science-fiction en fait, pour s'inspirer.
Exactement, et à l'époque, c'était extrêmement novateur de faire ça. C'est devenu un genre à part entière, mais à l'époque, c'était novateur. Et ce côté... J'insuffle du western dans un genre qui est celui là du fantastique ou du polar urbain. Ça, c'était neuf et il en a fait quelque chose d'assez génialissime. Et c'est vraiment un exemple qu'on pourrait donner parmi d'autres de ce que peut donner une bonne hybridation.
Ouais. Et d'ailleurs, peut-être l'un de ces films qui se rapproche le plus d'un western, c'est l'un de ces derniers. C'est Vampire avec James Woods,
oui,
qui vraiment en a... toutes les couleurs, y a des flingues, ça se passe dans l'Ouest, dans des petites villes, etc. On s'en rapproche vraiment. Et on peut dire que c'est un western, mais les méchants, ce n'est pas les frères, je ne sais plus comment, dans Règlement de compte à Hockey Coral.
Mais, c'est un gang de vampires, quoi.
C'est
ça.
Des vampires, voilà. C'est,
oui, tout à fait.
Comme son nom l'indique, bien sûr. Mais c'est ce qui se rapproche le plus. Mais malgré ça, effectivement, il a jamais touché véritablement au western, alors que c'est un genre qui le nourrit, qui l'obsède. Et il a peut-être eu raison à ce niveau-là, hein, quand on voit un réalisateur obsédé par une œuvre, par un film qu'il a envie de faire. Je pense en fait à Terry Gilliam qui voulait absolument faire le Don Quichotte. Du coup, il l'a fait finalement au bout de 25 ans. Et le résultat est forcément en deçà de ce qu'on pouvait attendre. Alors, peut-être que Carpenter a su justement ne pas y toucher pour éviter finalement la déception pour le public, mais peut-être aussi pour lui-même.
Mais je suis entièrement d'accord. Alors là, ce sera un sujet passionnant à creuser. Méfie-toi de ce que tu désires, parce que tu pourrais l'obtenir, comme le dit un vieil adage.
Oui.
C'est que des fois, ce qu'on veut le plus, c'est pas ce qui nous ferait le plus de bien. Et moi, je suis à peu près persuadé qu'un western par Carpenter aurait eu aucun intérêt, parce qu'il maîtrisait trop bien les codes. C'est un autre exemple que je donne à des jeunes scénaristes, mais c'est aussi un cap que je me fixe. Quand on a une trop grande fascination pour une œuvre, il y a un effet trou noir à cette œuvre. En graphisme, c'est très fréquent, par exemple, que je vois des gens qui sont fascinés par Mignola, qui est pour moi un des meilleurs dessinateurs au monde. Donc, bien sûr que c'est fascinant.
Dessinateur et créateur d'Hellboy.
De Hellboy, dont la version comics est, à mon sens, beaucoup plus intéressante, même si les films ne sont pas si mauvais, hein, mais plus intéressante que les adaptations. Comme un Franquin, à une époque, était un trou noir graphique de la bande dessinée franco-belge.
Ouais.
C'est des gens qui attirent tout à eux. Et c'est très compliqué, quand on est fasciné par des gens comme ça, de sortir de l'effet d'aspiration. Par définition, un trou noir, ça aspire tout, y compris la lumière, c'est dire quand même. Donc il faut être capable de faire un pas de côté et d'aller chercher de l'autre côté de ce qu'on croyait être prédestiné à faire. Et donc, si, là encore, on est fan de science-fiction ou fan d'un auteur, il faut presque mettre le cap à 90 degrés, voire 180, mais ça peut être un peu douloureux. En tout cas, ne pas viser directement cette personne qui nous fascine ou cette œuvre qui nous fascine. Et c'est en faisant ce pas de côté qu'on trouve vraiment sa place, et surtout qu'il y a une place vivable. On pourrait aussi donner une autre comparaison, j'aime bien les métaphores. C'est des arbres dans une forêt, chaque œuvre c'est un arbre. Quand on est en dessous de cet arbre, les petites plantes qui essaient de pousser, les petites œuvres, à la fois elles sont nourries par les grands anciens, par les feuilles de ces arbres qui nourrissent le sol, mais si elles restent à l'ombre d'un chêne centenaire, elles n'auront pas la lumière, elles n'arriveront pas à grandir. Et il y a beaucoup de jeunes auteurs qui restent à l'ombre des œuvres qui les ont nourries. Mm-hmm. Il faut aller voir ailleurs. Et Carpenter est un excellent exemple de ça.
Et à l'ombre, il y a aussi des fois des champignons. Ça n'a rien à voir.
Mais... C'est une belle métaphore d'œuvre un peu moisie.
Alors, juste pour l'anecdote, Carpenter a quand même écrit des scénarios de western.
Ah oui, d'accord.
Alors, il a peut-être écrit plein de trucs qui n'ont jamais été tournés. Hein, c'est bien, hélas, le cas souvent à Hollywood. Mais il y a quand même deux de ces scénarios de western qui ont été tournés pour la télévision américaine au tout début des années 90, 90 et 91, je crois, et qui ont l'air ultra classiques. Même au niveau, alors il y a des affiches, des images qui existent, on dirait vraiment l'équivalent des séries télé western qui pouvaient exister dans les années 60 et qui sont mis en avant dans le Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, qui sont, à mon avis, un plaisir purement de puriste. Alors, hélas, j'ai pas pu voir ces films parce qu'ils sont vraiment introuvables. Mais voilà, c'est dans l'ordre de curiosité, finalement, Carpenter s'est quand même un peu approché du western, mais n'en a jamais tourné.
Et je reviens sur George Lucas, parce que pour moi, il y a eu un peu le même syndrome, sauf que George Lucas a eu les moyens de faire ce qu'il voulait.
Ouais.
C'est-à-dire que pour moi, ça va faire un peu vieux con, dans le sens où il y a plein de gamins que je connais qui adorent les Star Wars, qui ont adoré les nouveaux Star Wars. Donc, ok, je vais juste évoquer ce que me semble avoir perdu Lucas en cours de route par rapport à la première trilogie. C'est qu'en fait, d'un seul coup, il avait les moyens de faire tout ce qu'il voulait. Mm. Et moi, je trouve ça moins intéressant à partir du moment où il peut vraiment montrer tout ce qu'il veut. Il y a l'effet numérique dont on parle, c'est-à-dire qu'il y a des fois où trop montrer tue le rêve. Et moi, à certains égards, je préfère un premier Star Wars, qui était l'épisode 4, un peu de briquet de broc, où on apprend par la suite que des astéroïdes étaient des patates qui peintent plus ou moins avec des cratères, enfin, où les marionnettes sont visiblement des marionnettes, mais me font beaucoup plus rêver. Parce que justement, je sens quelque chose qui les anime derrière, qui a une présence. Et il y a du rêve, parce qu'on ne peut pas tout montrer.
Ouais.
Que parfois, alors après, je ne dis pas, là encore, moi, les tout derniers épisodes, il y a des choses sur lesquelles je me suis plutôt bien amusé quand même.
Ouais.
Mais
c'est bien fait.
Je me méfie, une fois de plus, d'avoir trop les moyens. Et c'est pour ça que, pour un jeune auteur, c'est plutôt, ou une jeune autrice, c'est plutôt bon signe de se dire, des fois, j'ai pas tout le temps les moyens de faire exactement ce que je voudrais. Bah, super! Parce que si ça se trouve, ce qu'on a en tête n'est pas la bonne chose. Moi, il m'est arrivé parfois d'avoir plus les moyens de faire des albums que je ne le pensais avant, et de plus rater mon coup que quand, à un moment donné, j'étais contraint par le temps, contraint par une technique graphique, contraint par une pagination. Ouais. Toutes ces contraintes-là, elles sont extrêmement vivaces.
Mmh, mmh. Bah oui, c'est ça, c'est tout le paradoxe. On travaille pour avoir de moins en moins de contraintes, si possible, mais en fait, on se rend compte que ce sont les contraintes qui sont les plus fécondes, finalement,
pour la
création.
Exactement.
Et dans le cas de Carpenter, c'est d'autant plus vrai, puisqu'il a un peu frayé avec Hollywood. Il est connu surtout pour les films qu'il a fait un peu de manière indépendante, un peu en dehors du système, mais on lui a proposé quand même de temps en temps, et il a accepté aussi des gros budgets, des films de commande, et... Même si les films, moi, je trouve, sont bons. Hein.
Alors, c'est lesquels ?
Y a Starman, mais qui est quand même produit de manière un peu indépendante. Mais il y a surtout Les Mémoires d'un homme invisible, sur lequel il a passé un très mauvais moment. Mmh. Par contre, je trouve que le résultat est vraiment très chouette.
Moi, j'en ai un très bon souvenir.
Ah, ouais.
C'est plutôt une comédie, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. C'est, disons que c'est un film qui va explorer... qui n'est pas un film d'horreur.
Non, clairement pas.
Qui va plus s'intéresser à ce que c'est que de la vie de tous les jours quand on est invisible, et en fait à quel point c'est surtout pas drôle du tout, parce qu'il faut se mettre tout nu, on a froid, il veut dormir, il n'y arrive pas parce qu'il voit à travers ses paupières. Il y a plein de choses comme ça. Alors, c'est tiré d'un bouquin qui était intéressant, ça a été coécrit par William Goldman, qui est un très grand scénariste aussi, et il y a Chevy Chase. Enfin, bref, ça s'est mal passé parce qu'il y avait beaucoup trop d'interférences avec le studio. Il n'a pas fait la musique parce que ça devenait vraiment beaucoup trop compliqué. Mmh. Il l'a confié par contre à Shirley Walker, avec qui il a retravaillé après, qui est une grande compositrice de cinéma à Hollywood. Et puis en fait, il revient en fait parce que il revient dans le cinéma indépendant parce que non seulement c'est là où il a une liberté artistique bien plus grande, et aussi en fait, j'ai vu un interview hier de Kurt Russell qui disait mais en fait c'est là où il est bien. Oui. C'est lorsqu'il a pas trop de sous qu'il arrive à faire un film qui donne l'impression d'avoir coûté deux fois plus. J'ai un début de théorie, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais il y a pas mal de réalisateurs comme ça, marquants des années 70, 80, même un peu 90, qui ont un peu pris leur retraite au début des années 2000, et c'est le cas de Carpenter, hein, qui a fait qu'un film depuis et qui a l'air d'être très content comme ça. Ça marque aussi l'arrivée, fin des années 90, début 2000, du numérique. La révolution numérique qui sera à absolument tous les niveaux, moyens de production, c'est-à-dire maintenant on peut tourner un film, et depuis longtemps, on peut tourner un film avec un téléphone portable, le monter chez soi et le sortir aussi sur une plateforme ou sur une plateforme gratuite sur Internet, et on peut complètement changer, ça a absolument bouleversé la donne. Encore plus, je pense, que les effets spéciaux, et les effets spéciaux rentrent là-dedans aussi, et des gens comme Joe Dante, Cronenberg, Verhoeven, il est revenu Verhoeven, mais un cinéma qui revenait plus à ses débuts, Walter Hill, etc. C'est des réalisateurs, même Coppola, des gens qu'on ne retrouve plus trop, quoi.
En fait, il y a une question de... Alors, pour l'instant, dans un certain nombre de films, parce qu'une fois de plus, ça n'est qu'un outil numérique qui peut être très bien utilisé, on pourrait citer plein de contre-exemples de films réussis avec du numérique, y compris des effets spéciaux numériques. Mais il y a une forme de crasse qui était liée à l'animatronique, à des effets en direct. Je pense à la scène assez sensationnelle de Christine que j'ai revue récemment, parce qu'il est passé à la télé, et j'ai pu le montrer à ma famille, et j'étais super content de le montrer, et ils ont accroché.
Ouais.
Et en particulier cette scène où Christine, la voiture, donc qui est une sorte de voiture démoniaque qui se lie d'une sorte d'amour hyper malsain avec son jeune propriétaire, à un moment donné, elle est salopée par des jeunes voyous et elle se reconstruit toute seule. Et j'ai cru comprendre que c'est une scène qui a été vraiment inspirée par les gens qui ont été capables de faire les effets spéciaux de ça, quoi, qui ont dit « Regardez, on peut le faire ». Et Carpenter s'est laissé séduire. Au début, il ne voulait pas, je crois, montrer cette scène. Il voulait qu'on découvre la voiture refaite à neuf le lendemain matin. Mm-hmm. C'est devenu une des scènes emblématiques de ce film. Et c'est d'ailleurs une revanche de Cabossé. Et donc il faut que ça soit crade, il faut un marginal comme Snake Plissken ou tous ces gens de la marge qu'affectionne Carpenter. Si ces personnages sont propres, si le film qui les met en avant est propre, il y a une contradiction entre le fond et la forme. Ici, on parle d'une voiture qui est une voiture marginale jusqu'au dernier degré, qui en devient démoniaque. N'empêche qu'elle est là pour venger un déclassé, quelqu'un qui a du mal à s'intégrer dans son lycée. Qui a envie de se venger du monde entier. Et je trouve que c'est un des films les plus intéressants aussi de Carpenter pour ça. Et cette scène, il faut la revoir absolument. Je pense qu'elle est très facile à trouver sur YouTube.
C'est bien fait.
Où on a une voiture qui part d'une carcasse qui a été complètement explosée par des hooligans et qui se reconstruit, et qui est une scène de reconstruction intérieure du personnage principal, malheureusement, qui va l'entraîner vers le pire. C'est hyper ambigu, c'est hyper intéressant.
On va refaire un petit détour musical avant d'aborder la dernière partie de cette émission avec une autre musique composée par John Carpenter, mais également chantée par lui, puisqu'en fait, il a également une sorte de vrai faux groupe qui s'appelle les Coupes de Ville, c'est-à-dire Coupé de Ville, et c'est donc une forme de voiture, un type de voiture, qui est un groupe dont il est le chanteur-compositeur, mais dans lequel on retrouve Nick Castle, qui est donc un ami de ses débuts, co-scénariste de pas mal de ses films, chef-op sur son premier court-métrage, et l'acteur qui joue en fait Michael Myers sous le masque dans le premier Halloween, et qui a été choisi visiblement parce qu'il est très costaud, mais également parce que c'est l'homme le plus gentil du monde. Et c'est également avec Tommy Lee Wallace, qui est un ami donc de Carpenter, qui sera également le réalisateur d'Halloween 3, produit et coécrit par Carpenter. Alors, ce groupe, Coupe de Ville, n'a pas fait grand-chose, mais ils ont quand même fait la musique... de Big Trouble in Little China, donc les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, et c'est très kitsch et c'est très cool. À tout de suite. We better run.
100 ans de cinéma et des poussières avec notre invité.
Et oui, de retour dans 100 ans de cinéma des poussières, donc pour la dernière intervention, avec notre invité Fabien Velman, qui a choisi donc de parler de John Carpenter et de son cinéma. On vient d'écouter donc un extrait de la bande originale de Big Trouble in Little China, donc les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, et composé et chanté donc par John Carpenter et son groupe The Coupe de Ville. À noter que Carpenter et Kurt Russell ont quand même tourné 5 films ensemble. C'est probablement son acteur fétiche, et c'est intéressant parce qu'il l'a fait tourner dans des films assez anarcho-nihilistes, alors que donc Carpenter est lui quelqu'un très à gauche et Kurt Russell est lui très à droite, il est pour le port d'armes, etc. Il en reste quelqu'un de très sympathique visiblement en interview, etc. Mais Carpenter a dit pour l'anecdote de Kurt Russell qu'il était plus à droite qu'Hitler.
Mais j'allais dire que Kurt Russell s'inscrit dans une lignée qui est aussi celle de, par exemple, de, je sais pas, d'un Clint Eastwood, qui peut être à la fois un acteur formidable et quelqu'un de sans doute assez peu fréquentable d'un point de vue politique. Où je pense aussi à Charlton Heston, qui était quand même qui a poussé des films fantastiques hallucinants comme La Planète des Singes, comme Soleil Vert, qui a vraiment aidé à la réalisation de ces films, et qui était un des principaux défenseurs du port d'armes aux États-Unis. C'est presque plus des anarchistes de droite, quoi.
C'est ça. Mais c'est les contradictions américaines, c'est comme ça, les paradoxes.
S'il y avait qu'aux États-Unis qu'il y avait ce genre de contradictions.
Et donc pour revenir à Carpenter, est-ce qu'il y a des films dont on n'a pas encore évoqué que t'aimerais sur lesquels t'aimerais revenir?
On pourra, si on a le temps, revenir un peu sur The Thing, qui a quand même été pour moi un choc absolu. Juste pour évoquer une petite anecdote là-dessus, je me rappelle encore avec émotion d'un concours de jeux de rôle auquel j'ai participé dans mes vertes années, où j'avais odieusement pompé la trame de The Thing pour animer une partie, qui m'avait valu de gagner le premier prix de maître de jeu. Et pour dire que je mêlais à l'époque un peu tout ça, c'est-à-dire qu'à la fois cette filmographie de genre, à la fois le jeu de rôle qui était aussi une porte d'entrée de la créativité qui était extrêmement importante pour ensuite fabriquer ce qui est devenu, grosso modo, ma future œuvre. Donc ça, c'est juste une petite anecdote. On n'a pas abordé le film Invasion Los Angeles, qui on en convenait pendant la chanson, là, et nous semble important. Pourquoi ? Parce que justement, C'est un film, bon, à la fois qui est un film assez bourrin, soyons clairs. Dans mon souvenir, il y a une scène de combat entre deux des principaux protagonistes qui doit durer au bas mot 10 minutes.
Ouais, et qui a beaucoup marqué, et qui marque encore quand les gens découvrent ça, c'est-à-dire, mais le film est super, mais pourquoi ça dure 10 minutes ? C'est interminable, ça ne sert à rien. Et c'est justement, à mon avis, Carpenter qui dit, mais je m'en fous.
C'est un gros fuck, en fait. Et je pense que typiquement, alors, on peut peut-être résumer vite fait ce qu'est cet ovni, ouais. Qui donc en anglais doit s'appeler They Live. Je crois. They Live, d'ailleurs.
Live, oui. Mais qui est donc un retour, enfin, un hommage direct au film des années 50 de SF Parano, It Came From Outer Space, etc.
Oui, ou l'invasion des profanateurs de sépultures, un peu cette impression de ils sont déjà tous là. Mm-hmm. Et ce que se permet Carpenter avec ce film qui n'a pas dû coûter tant d'argent que ça, mais qui est extrêmement radical dans son approche.
Qui est carrément fauché.
C'est qu'il y a un personnage qui est une espèce de routard un peu bourrin qui à un moment donné tombe sur des lunettes magiques, on pourrait presque le dire comme ça, de haute technologie, qui lui permettent de voir ce qui est caché derrière les apparences. Et en fait, ces images-là, elles sont devenues presque des mèmes. Hein, c'est que derrière des affiches... qui seraient des affiches de pub ou simplement de films ou n'importe, on voit les vrais messages qui sont dissimulés et qui sont obéis, consomme.
Marie-toi et fais des enfants.
Voilà, ne réfléchis pas, regarde la télé comme un con. Enfin, alors, il y va à la truelle, le message il est énorme et en même temps, il est extrêmement improbable dans un univers américain où on ne s'attend pas du tout à le voir. Et peut-être que la seule comparaison que je pourrais trouver d'un aussi grand jusqu'au boutisme dans une production d'apparence hollywoodienne, parce que dans le cas présent c'est pas le cas, mais c'était le Verhoeven de l'époque américaine quand il faisait des Robocop ou des Starship Troopers qui vont très très loin dans une forme de nihilisme. Je me rappelle des fausses pubs inventées par Verhoeven dans Robocop, elles sont hallucinantes justement de n'importe quoi, mais elles sont super drôles, c'est presque les nuls.
Oui,
c'est presque objectif nul, mais version science-fiction urbaine. Et dans Starship Troopers, ça lui a même valu d'être traité de néo-nazi parce que une partie du public américain n'a pas saisi l'ironie du propos, à savoir que oui, il évoque une société qui est carrément néo-nazi, sauf que jamais il ne le dit. Mm-hmm. Et dans le cas de Verhoeven, assumé comme étant, regardez, c'est ça notre société en réalité.
Et ce qui est formidable, c'est que lui, ça allait complètement dans son sens, que justement le film se soit fait éreinter à sa sortie en disant « mais c'est un film nazi ». Ben oui, c'est un film nazi. c'est ça l'idée, quoi.
Et Carpenter n'allait pas jusque-là, mais il a une façon de présenter, peut-être pas la Californie dans son ensemble, mais en tout cas Los Angeles, et donc sans doute un petit peu la société hollywoodienne qui allait avec, qui en est drôle tellement elle est caricaturale, mais qui marche assez bien. Donc c'est pas un grand film, mais c'est un film qui est assez réjouissant, assez jubilatoire dans ce côté un petit peu de désengage en bonne et due forme, je trouve.
Ah oui, oui. Et puis à ce côté, vraiment, on est libre, on fait une liberté de ton, puisque justement, il n'y a pas de star. Hein, l'acteur principal, ce n'est pas Kurt Russell cette fois-ci, non. C'est un acteur dont j'ai oublié le nom, mais qui était en fait un catcheur, à une époque où les catcheurs ne faisaient pas trop de carrière au ciné, à part Hulk Hogan. Et c'est pas un très grand acteur du tout, mais il est parfait dans le rôle et libéré des contraintes, Carpenter va jusqu'au bout dans son film qui est donc à la fois tire à boulet rouge sur la société de consommation, mais et également ose une fin assez pessimiste. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas à Hollywood.
Non, tout à fait. Et en parlant de fin pessimiste, ça me donne envie de revenir sur The Thing, parce qu'il y a eu, un effet intéressant pour moi qui découvrait les coulisses de ce qui peut être dit en dehors d'un film. C'est-à-dire que moi, j'ai un rapport au cinéma qui est très basique. Je regarde le film, je l'aime pas. Et puis ensuite, il me nourrit ou il me nourrit pas. Je ne suis pas tellement du genre à aller chercher ensuite des exégèses dessus, des gens qui vont discuter dessus pendant des heures sur des forums. Mm-hmm. Le fait est que sur The Thing, c'est quand même arrivé. Parce que, pour rappeler donc l'idée de ce film hautement paranoïaque, il y a quand même cette notion qu'un être venu d'ailleurs peut se faire passer pour n'importe quel être vivant. Ça commence par des chiens. D'ailleurs, les premières scènes d'arrivée sur cette base polaire sont sensationnelles. À mon avis, continuent à ne pas avoir vieilli du tout. C'est un hélicoptère qui pourchasse un chien, qui essaie de le tuer à tout prix, puis qui se plante, et le chien survit, et malheureusement pour la base polaire en question, parce que le chien, c'est the thing, c'est la chose. Mm-hmm. Et ensuite, il y a ce climat de qui est la chose, hein, qui a été déjà contaminé, qui est en fait déjà cet autre, ce grand adversaire. Et je ne le savais pas à l'issue du film, parce que ça, c'était pas forcément utile. Le film se termine plus ou moins, pourrait ressembler à Happy End. Il semblerait qu'il y ait eu des survivants, sauf qu'il y a toute une théorie, qui à mon avis d'ailleurs est tout à fait justifiée, que sur les deux survivants, il y en a un des deux, en réalité c'est encore The Thing.
Bah oui.
Et que ça peut se repérer au fait qu'il il n'aimait pas de buée.
Ah oui.
Je crois, alors qu'il y a Kurt Russell et un autre comédien.
Oui, qui joue également dans Invasion Los Angeles.
Tout à fait. Oui. Et je crois que l'autre comédien n'aimait pas de buée quand il parle, alors que Kurt Russell en aimait. Donc, ce qui laisserait entendre que c'est la chose a survécu. Voilà le genre de petits plus, de petits bonus dont je reconnais quand même qu'il est assez plaisant et qui rend la fin beaucoup moins amusante et qui permet quelque part de faire un happy end qui n'en est pas un, ou plutôt une fin ambiguë, là où on pourrait s'attendre à une sorte de happy end. Ceci étant dit, on ne s'attend pas à ce qu'ils survivent très longtemps l'un et l'autre, vu qu'ils sont en plein blizzard et que tout a explosé.
Mais ils ont survécu au film, c'est le principal.
Mais ils ont survécu au film, ce qui n'est pas le cas de tous les personnages dans pas mal de films de Carpenter. Il y en a beaucoup qui meurent, et peut-être qu'on peut évoquer pour ça Le Prince des Ténèbres, où je crois il y a quand même aussi pas mal de personnages qui disparaissent.
Oui.
Et qui est, alors pas un des films dont je me rappelle le mieux, mais un des films qui m'a le plus marqué en termes d'atmosphère. Parce que c'est un film qui a vraiment une musique à lui, que je trouve assez sensationnelle. Alors je crois que tu m'as dit l'avoir revu, ou vu en fait.
Découvert, oui.
Découvert, il n'y a pas
semaine.
Si longtemps.
Ouais, ouais. Et c'est très chouette, effectivement. Et puis alors, il y a vraiment tout cet aspect effets spéciaux des années 80 qui a été utilisé avec beaucoup d'efficacité dans Ghostbusters, par exemple, je trouve, et qu'on retrouve un peu ici. On a notamment parce qu'il y a cette forme verte tournante, là, qui est le démon. Et non, c'est un film très chouette. Là aussi, un peu une épure, finalement, dans son œuvre. Pas d'humour du tout.
Non, alors, d'ailleurs, l'humour de Carpenter, il est à prendre avec des pincettes. Hein, je te l'ai dit, j'ai essayé de revoir Big Trouble in Little China. J'ai eu un peu de mal à me replonger dans le film, dont je trouve qu'il a pour le coup assez vieilli. La plupart des films de Carpenter ont assez peu d'humour, ce qui est paradoxal, parce que moi, j'aime beaucoup aussi l'humour dans le cinéma, mais là, ce n'est pas le cas. Comme un Cronenberg manque pas mal d'humour. Il y a quelque chose dans Prince des Ténèbres qui, pour moi, touchait un peu au monde de Barker et celui de Hellraiser, à savoir quelque chose qui touche justement à une forme d'indicible, à quelque chose... Tu le comparais aux effets spéciaux de Ghostbusters, mais c'est beaucoup moins drôle, de fait.
Oui,
et finalement, un poil plus réaliste à sa manière. C'est un film qui continue à me fasciner un petit peu pour ses effets un peu décorchés aussi, de corps écorché, de choses comme ça, qui me fait penser à Hellraiser aussi. Et ce côté silhouette dans la nuit qui approche et qui sont le mal en fait, qu'on retrouve dans Fog aussi, qu'on n'a pas tellement évoqué, mais de ce qui se cache dès que le regard ne peut plus percevoir les choses. Ça reste quelque chose qui est indémodable et que je trouve extrêmement réussi dans son cinéma.
Et l'émission touche à sa fin. Je voulais juste évoquer le fait que, surtout à une époque, c'est un peu révolu maintenant, mais les films de Carpenter ont été beaucoup remakés. Il y a eu un remake donc, d'Assaut par Jean-François Richer, réalisateur français, écrit par James de Monaco, qui a ensuite écrit The Purge 1, 2, 3, 4 et 5, qui a un côté très Carpenter d'ailleurs. Et il y a eu Halloween par Rob Zombie, il y a eu The Fog, il y a eu également The Thing. C'est intéressant parce que même dès 1990-91, donc 2-3 ans après Invasion Los Angeles, il y avait un jeu vidéo sur les Simpsons qui sortait, qui reprenait exactement le même principe. Et tout ça pour dire qu'en fait, Carpenter a eu du succès, est un réalisateur vraiment culte au sens premier du terme, avec des gens qui sont fans et qui vont adorer ses films. Et ça, Hollywood s'en est bien rendu compte, mais Carpenter ne peut pas travailler à Hollywood. Ce qui fait qu'on récupère ses œuvres pour les remaker, pour les rendre un peu moins offensives, on va dire.
Oui, c'est ça, ou devenir des franchises. Halloween est devenu une franchise, à mon avis, qui a dû aider, enfin j'espère qu'il a eu un bon contrat dessus, mais qui a dû aider Carpenter à bien gagner sa vie. Mais il est resté constamment dans cette espèce de... C'est pas une marge totale, il faisait des films, mais une forme de marge acceptable que je trouve hyper intéressante d'un point de vue créatif.
Et on termine là-dessus. Alors, les derniers Halloween sont pas mal, de David Gordon Green.
Paraît-il.
Ouais, c'est vraiment très chouette. Et il y en aura deux autres. Merci beaucoup, Fabien Wellmann, d'être venu évoquer ici le cinéma de John Carpenter. C'était très intéressant. Et encore une fois, une heure, c'est trop court, comme d'habitude. Mais il vaut mieux ça que
exactement.
Trop long. Et on termine toujours en musique avec un extrait de la bande originale, le thème donc de Los Angeles 2013 par Carpenter et Shirley Walker et un autre compositeur de ses amis. Et puis on se retrouve le mois prochain, pour une autre émission. Merci encore, à très bientôt et bonne journée.